Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13, 8. Lettre circulaire. Avril 2009. Photo de la couverture. Cette photo prise dans le Grand Canyon montre l'arc-en-ciel d'une manière particulièrement impressionnante. Cela nous rappelle les événements qui sont exposés dans les Écritures suivantes, lesquelles parlent de l'Alliance et de l'arc-en-ciel. Ô Dieu, nous te supplions, souviens-toi de ton Alliance et de tes promesses. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'Alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Genèse 9, 12 et 13. Dieu entendit leur gémissement, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac, et Jacob. Exode 2, 24. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Psaume 50, 5 et 6. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ésaïe 54, 10. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante, qui l'entourait, c'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel 1, 26 à 28. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance. Luc 1, 72. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Matthieu 26, 28. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Marc 14, 24. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Apocalypse 4, 2 et 3. Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Apocalypse 10, 1. Dieu se souvient de son alliance aussi dans notre temps. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Je salue particulièrement tous mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans tous les différents pays, avec ce passage de Romains 1, versets 1 à 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Quelle profonde introduction de l'apôtre dans sa première épître. Par grâce, il fut appelé, et il reçut l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi, au travers de son ministère, les croyants de toutes les nations pour la gloire de Dieu. Cela eut lieu non par la prédication d'un quelconque évangile, mais au travers de la prédication de l'évangile de Dieu tel qu'il avait été annoncé par les saints prophètes et tel que promis dans les saintes écritures de l'Ancien Testament. Ce même évangile éternel, qui est exclusivement fondé sur les saintes écritures, est encore celui que nous proclamons maintenant. L'apôtre Paul était conscient de la responsabilité liée à son appel divin, et avait consacré toute sa vie au ministère qu'il avait reçu du Seigneur. Cela est encore le cas aujourd'hui pour tout véritable serviteur de Dieu qui a reçu un appel direct. Il rend le témoignage suivant dans Romains 15, versets 17 à 18, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. » Déjà dans l'Ancien Testament, la foi et l'obéissance envers Dieu étaient les choses les plus importantes pour le peuple d'Israël. Hébreux 11. Par la foi, Israël prit possession de la terre promise. Par l'obéissance, ils furent bénis dans la terre promise. Mais à cause de leur désobéissance, ils furent emmenés en captivité à Babylone, Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Néhémie 9, 26. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps, nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Ésaïe 63, 18. L'Église du commencement, qui obtint toutes les promesses par la foi, ne demeura malheureusement que peu de temps dans cette condition bénie. Au travers de la désobéissance, les croyants furent dispersés en plusieurs dénominations. La foi authentique et la véritable obéissance sont par conséquent d'une grande importance pour chaque personne qui fait partie de l'Église du Nouveau Testament. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux 3, 12. En effet, l'incrédulité et l'apostasie à l'égard du Dieu vivant. C'est seulement la foi qui nous met en connexion avec lui. Elle suscite l'obéissance et aboutit dans un amour fraternel sincère parmi les croyants, comme l'a écrit l'apôtre Pierre, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » 1 Pierre 1, 22. Comme avec Israël, Dieu ne peut pas tolérer l'incrédulité et la désobéissance dans son Église des nations. Abraham, le père de la foi, est un exemple pour Israël, pour l'Église et pour chaque croyant. Il crut Dieu, Romains 4, 3, et finalement expérimenta l'accomplissement de la promesse que le Seigneur lui avait donnée. Dans une pleine obéissance, il était même prêt à offrir en holocauste, sur l'autel, son fils Isaac. L'apôtre Jacques fit le lien entre la foi, l'obéissance et les œuvres dans la remarque suivante, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. » Jacques 2, 20 à 22. Jésus-Christ, le Fils promis, a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 7 et 8. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5, 9. Cela doit aussi être le cas pour tous les fils et toutes les filles de Dieu qui ont été crucifiés avec Christ, et sont ressuscités avec lui pour une nouvelle vie. Comme l'apôtre Paul, ils peuvent rendre ce témoignage. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Chaque jour qui passe, accroît notre espérance à participer au retour promis de Jésus-Christ. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, les véritables croyants qui ont été appelés à sortir de toutes les nations doivent se séparer de tous ceux qui ne s'accordent pas avec Dieu, avec sa parole et sa volonté. C'est le seul moyen pour devenir l'épouse parole, en allemand, dire eine Worte Braut, la pure fiancée ou future mariée de la parole, qui est destinée à rencontrer l'époux, en allemand, Bräutigam, le fiancé, le futur marié. Et pas une épouse message, en allemand, une fiancée du message. Car il y a différents groupes dans le milieu du message qui prétendent être l'épouse, en allemand, Brautgemeinde, l'assemblée de la fiancée, de la future mariée. Il n'y a qu'un seul dont le nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13, et il n'y a qu'une seule épouse de l'agneau, en allemand, une seule fiancée ou future épouse de l'agneau. Qui deviendra son épouse, ou sa femme. Après le festin des noces. Viens, je te montrerai la fiancée, en grec, nymphène, la jeune fille, la jeune fiancée. La femme, de l'agneau, en grec, gynaïka, la femme dans le sens de l'être de sexe féminin. Apocalypse 21, 9. Il n'y a qu'une seule église épouse, en allemand, Brautgemeinde, l'assemblée de la fiancée, de la future mariée, qui porte son nom, et qui a été prédéterminée à expérimenter l'accomplissement de chaque promesse qui se trouve dans la parole de Dieu. Elle retourne aux enseignements originaux et aux pratiques de l'Église du commencement ainsi qu'au premier amour, et elle sera un seul cœur et une seule âme comme au commencement. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4, 7, 8 et 12. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Dans sa deuxième prédication, l'apôtre Pierre avait déjà fait ressortir que le Rédempteur est reçu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement au travers de ses saints prophètes. Acte 3, 19 à 21. Le texte grec mentionne le mot apokatastasis qui signifie littéralement rétablissement dans l'état initial. Dans l'Église de Jésus-Christ, tout doit être ramené dans son état original avant le retour de Christ. Le Seigneur lui-même l'a promis dans Matthieu 17, 11. Et dans Marc 9, 12, Élie viendra premièrement, et rétablira toutes choses. C'est ce qui s'accomplit maintenant, avant que l'époux prenne son épouse à la maison. En allemand, avant que le fiancé, ou futur marié, ne vienne chercher sa fiancée, ou futur marié. Après la proclamation du dernier message, Malachie 4, lequel est le précurseur de la seconde venue de Christ, le Seigneur envoie maintenant ses serviteurs pour lancer l'invitation aux noces. Dites aux conviés, « Voici, j'ai préparé mon festin. Tout est prêt. » Matthieu 22, 1 à 14. Il revient aux invités de décider s'ils vont trouver une excuse ou entendre et obéir à l'appel. Matthieu 24, 45 à 47 parle d'un serviteur fidèle et prudent que le Seigneur a établi sur les gens de sa maison pour leur distribuer la nourriture spirituelle au temps convenable avant la venue de l'époux. En allemand. Dans Matthieu 24, 45 à 47, nous lisons à propos d'un serviteur sage, et de l'ensemble des serviteurs de la maison, qui, avant la venue du fiancé ou futur marié, distribue la nourriture spirituelle au bon moment. Pour les racheter, cela signifie que la volonté de Dieu doit maintenant devenir une réalité dans leur vie, comme cela eut lieu auparavant avec le Rédempteur. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Nous nous attendons maintenant à l'achèvement imminent de l'œuvre de rédemption de Dieu avec l'Église. Par conséquent, notre nourriture spirituelle doit être directement connectée à la volonté de Dieu. C'est seulement de cette manière que cette Écriture s'accomplira en nous. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, 10 à 14. Dans Matthieu 24, 48 à 51, nous avons l'exemple d'un serviteur méchant qui dit dans son cœur, « Mon maître tarde à venir », et qui ensuite commence à battre ses compagnons. Un serviteur prudent dispense la parole de Dieu à l'Église, la nourriture spirituelle, la manne cachée, et il sème la bonne semence qui se manifeste dans tous les fils et filles de Dieu. Un serviteur méchant sème des interprétations, qui crée des dissensions, et ensuite il bat tous les autres serviteurs qui ne partagent pas son point de vue. Tout ministre qui n'a pas reçu d'appel direct et personnel de la part de Dieu éprouve des difficultés à croire que quelqu'un d'autre puisse être directement appelé. Lorsqu'un appel est en relation avec le plan du salut, seuls ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde peuvent y croire. Éphésiens 1, 1 à 5. Que cela ait été au temps des prophètes ou au temps de notre Seigneur et après avec les apôtres, seulement ceux qui étaient de Dieu entendirent et crurent sa parole. Jean 8, 47. Tandis que les autres la rejetèrent. Tel est le cas encore aujourd'hui. Néanmoins, lorsqu'il est question d'un appel, les paroles suivantes de notre Seigneur sont toujours valables. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Luc 10, 16. Dans Matthieu 25, le cri de minuit retentit, « Voici l'époux, en allemand le fiancé, le futur marié. Allez à sa rencontre. Et les vierges sages, qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Ceci est la leçon la plus importante liée au retour de Christ. Nous voyons que tout à la fin, l'accent est mis sur le fait que seules les vierges sages atteindront l'objectif final. La Vierge Marie fut choisie par Dieu afin que le Rédempteur puisse entrer dans l'humanité tout comme l'Église est destinée à recevoir la semence divine afin que Christ se manifeste dans tous les rachetés. Colossiens 3, 1 à 4. Il est question de la réalisation du divin plan du salut qui atteindra son point culminant lors du retour de Christ. À ce moment-là s'accomplira 1 Corinthiens 15, et nos corps mortels seront transformés et revêtiront l'immortalité. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Verset 49. En ce qui concerne Marie, il y a deux déclarations dans Luc au chapitre 1 qui ont une importance particulière. Je ne connais point d'homme. Et, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie avait trouvé grâce devant Dieu de recevoir la parole de la promesse qui lui avait été apportée par l'ange Gabriel. Verset 30. Afin que la parole puisse devenir chair et que le Fils de Dieu naquît. Les prophéties suivantes s'accomplirent. La semence divine devait venir au travers d'une femme. Genèse 3, 15. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite. Galates 3, 19. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. 2 Samuel 7, 14. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Hébreux 1, 5b. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 2, 7. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Hébreux 1, 5a. Par l'engendrement. En allemand, Zeugung signifie procréation. Conception, engendrement, qui était en même temps une œuvre de création, la semence divine fut placée dans Marie. C'est ainsi qu'il est le seul fils engendré. En allemand, Ein geborene, le fils unique. Jean 3, 16. Le premier-né parmi plusieurs frères. Romains 8, 29, le commencement de la nouvelle création de Dieu. Apocalypse 3, 14, et aussi le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 14 et 15. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Les écritures suivantes s'accomplirent également. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Psaume 22, 10. Et, lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Psaume 89, 27 et 28. Les événements liés à la première venue de Christ ont été ainsi résumés par le Seigneur ressuscité, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Luc 24, 44 et 45. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Encore maintenant, il s'agit de l'accomplissement de tout ce qui avait été prédit pour notre temps. Au travers de la Vierge Marie et du Rédempteur lui-même, chaque prophétie de l'Ancien Testament fut accomplie. Au travers des Vierges Sages et du Rédempteur lui-même, toutes les prophéties dans les Saintes Écritures en rapport à cette période sont maintenant en train de s'accomplir. Comme avec Marie en son temps, nous acceptons volontairement la promesse et nous disons « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1. 38. À sa constatation, « Je ne connais point d'homme. » L'ange lui donna l'explication suivante, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, 34 et 35. De même que Marie reçut la parole de la promesse par la foi et que le Saint-Esprit vint sur elle, ainsi les vrais croyants reçoivent maintenant, par la foi l'authentique, la parole de la promesse pour ce temps et ils sont remplis par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons reçu les plus grandes promesses de tous les temps et nous allons les expérimenter lorsque le Fils mâle, en allemand, Mann auf der Sohn, le Fils viril, la troupe des vainqueurs, avec des douleurs d'enfantement, émergera de l'Église, et, dans un instant suprême, sera enlevée vers Dieu et vers son trône. Né de Dieu et participant de la nature divine. 2 Pierre 1, 3 à 11. La postérité le servira. Psaume 22, 30, Ésaïe 53, 10, etc. et reçoit la nature divine. 2 Pierre 1, 3 à 7. Tous ceux qui sont engendrés de Dieu et nés de nouveau, en tant que fils et filles de Dieu, ont la même nature divine que celle du Fils de Dieu. Le mot grec, genao, signifie engendrer. L'allemand Zeugen signifie concevoir, engendrer, procréer. Le mot grec, genao, signifie aussi enfanter. En allemand, gebären, accoucher, donner naissance à, ou plus rarement enfanter. Et cela s'applique autant aux fils de Dieu qu'aux fils et filles de Dieu. Quand ce mot est utilisé en relation avec un homme, la traduction devrait être engendrer, ou naître de. L'allemand Zeugen signifie concevoir, engendrer, procréer. Comme par exemple dans Genèse 5 où il est cité à plusieurs reprises, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Quand il est utilisé en relation avec une femme, la traduction devrait être enfantée. En allemand, gebären, accoucher, donner naissance à, ou plus rarement enfanter. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et enfanta. Genèse 4, 1. Au sujet de Marie, nous lisons. Et elle enfanta, ou, elle donna naissance à, son fils premier-né. Luc 2, 7. L'apôtre Jean a écrit en détail sur ce sujet. Jean 3, 7. 1 Jean 2, 29. 1 Jean 3, 9. 1 Jean 5, 1. 1 Jean 5, 18. Etc. C'est un fait avéré que chaque naissance est précédée d'un engendrement. En allemand, conception, procréation. Et que la semence se manifeste dans la vie par la naissance. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de, engendré par, ou conçu par, lui. 1 Jean 2, 29. Quiconque est né de, engendré par, ou conçu par Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de, engendré par, conçu par Dieu. 1 Jean 3, 9. Parce que tout ce qui est né de, engendré par, conçu par Dieu, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. En regardant aux vierges sages, nous voyons l'histoire se répéter comme avec Marie, elle reçut la promesse, la crut, le Saint-Esprit vint immédiatement sur elle et ainsi la parole fut faite chair. La même chose arrive maintenant avec ceux qui constituent l'Église épouse, en allemand, l'assemblée fiancée, la communauté nuptiale. Ils reçoivent par la foi la parole de la promesse pour ce temps, le Saint-Esprit vient sur eux, et la semence de la parole se manifeste. Comme Marie, ils disent, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Lorsqu'il est question des vierges sages, il n'y a plus d'interférence humaine. Elles, pareillement, ne connaissent aucun homme, aucune semence étrangère et aucune doctrine non scripturaire. Les vierges folles peuvent croire des interprétations absurdes telles que, cet homme spécial, achèveront l'épouse, en allemand la fiancée, la future mariée. Que le Seigneur serait déjà revenu, et tant d'autres choses semblables. Cependant, les vierges sages ne tolèrent aucune interprétation. Elles sont l'épouse parole, en allemand la fiancée de la parole. Et par conséquent, elles ne peuvent être coupables de fornication spirituelle. Ainsi elles demeurent pures, et les promesses de Dieu deviennent une réalité en elles. Les enfants de la promesse croient la parole de la promesse et reçoivent l'esprit de la promesse. Romains 9, 8, Galates 4, 28, Éphésiens 1, 13. Les vierges sages n'ont pas que des lampes, la lumière, elles ont également des vases d'huile afin de remplir leurs lampes pour que celles-ci ne s'éteignent pas. Cela nous rappelle le prophète Élie qui fut envoyé vers une veuve, à Sarepta, et il lui dit, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 1 Roi 17, 14. On a besoin de la farine pour préparer du pain, l'huile est nécessaire pour la lampe. En continuant la lecture, nous voyons ces paroles confirmées. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. 1 Roi 17, 16. De la même manière maintenant ces deux choses nous seront suffisamment accordées jusqu'à ce que tombe la pluie de l'arrière-saison. Ésaïe 44, 3, Jérémie 5, 24, Jacques 5, 7, etc. Dans la prédication la parole parlée et la semence originelle, frère Branham a dit, Quand ce messager oint arrivera, il plantera évidemment la semence de la Bible tout entière, commençant au serpent pour arriver jusqu'au messager pendant la première pluie. Ensuite, dans la dernière pluie, viendra un Mont Carmel, une confrontation. La Bible s'accomplit à la lettre. Nous croyons au message d'Élie pour notre temps et nourrissons nos âmes avec la précieuse nourriture spirituelle. Les vierges sages expérimentent en ce moment le remplissage d'huile dans les vases afin de pouvoir ravitailler leurs lampes. Cela les distingue encore plus des vierges folles qui se sont séparées de l'Église, en allemand de l'Assemblée ou de la Congrégation. Et par cela, du récipient d'huile qui est relié directement au chandelier. Zacharie 4, 2, Apocalypse chapitre 1, à 3. En fin de compte, l'objectif capital est de croire sans compromis, sous la conduite directe du Saint-Esprit, et d'expérimenter ce que Dieu a promis dans sa parole. Alors, ces paroles deviendront une réalité en nous, et bienheureuse est celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Luc 1, 45. La promesse que Dieu nous a faite inclut l'appel à sortir, la séparation, la purification selon 2 Corinthiens 6, 14, et 2 Corinthiens 7, 1, ainsi que la totale restauration de toutes choses dans leur état original. Tandis que les folles sont encore dans des discussions sur différents sujets, les sages expérimentent l'accomplissement des promesses. En ce qui concerne la préparation personnelle de tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse, en allemand, l'assemblée fiancée. Nous devons sérieusement réaliser que dans les derniers instants avant le mariage, sur le plan naturel, une épouse, en allemand, une fiancée, une future mariée, ne s'inquiète plus de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle ne s'intéresse plus à ce que les gens disent ou font, mais elle est plutôt déterminée à être prête. Le prophète Jérémie a dit, la jeune fille, en allemand, la vierge, oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sa ceinture? Jérémie 2, 32. C'est le cas maintenant avec ceux qui font partie de l'épouse. En allemand, ainsi en est-il avec toutes les âmes nuptiales, toutes les âmes faisant partie de la fiancée, de la mariée. Ils ont un lavage d'eau dans la parole de Dieu. Éphésiens 5, 26. Ils plongent leur regard dans le miroir de la parole. Jacques 1, 19 à 27. Ils seront revêtus de fin lin qui sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, 8. Et se prépare pour rencontrer l'époux, en allemand, le fiancé, le futur marié. L'apôtre Jacques nous a sérieusement avertis de rejeter toute souillure et de recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous, et qui peut sauver nos âmes. Il ajouta, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. » Il poursuivit plus loin en écrivant, « Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Finalement, il nous est dit qu'un simple regard dans le miroir ne suffit pas, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. » Jacques 1, 22 à 24. L'Esprit de Dieu révèle les manquements de chacun individuellement. Il convainc du péché, de la justice et du jugement. Jean 16, 7 à 15. Et il conduit également dans toute la vérité ainsi que dans l'obéissance. Nous mettons alors en pratique la parole et pouvons marcher en pleine harmonie avec Dieu comme le fit Enoch, en accord avec sa parole et sa volonté. Lorsque nous lisons dans Éphésiens 5, 27, que le Seigneur se présentera à lui-même une église, en allemand, son assemblée, irrépréhensible, sans tache, ni ride, alors nous devons aussi lire les Écritures respectives pour savoir ce qui est exigé de chacun de nous individuellement afin de mener une vie agréable à Dieu. David posa cette question, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. » Psaume 24, 3 et 4. Dans le sermon sur la montagne, notre Seigneur a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. David, qui avait personnellement subi beaucoup d'épreuves, écrivit ce qui suit sous la conduite du Saint-Esprit. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Psaume 15, 2 et 3. Il serait conseillé à chaque croyant de se référer à 1 Corinthiens 6, 9 et 10, pour une évaluation biblique de sa vie et pour déterminer s'il y a encore certains manquements qui pourraient l'exclure du royaume de Dieu. Les calomniateurs devront rester dehors ainsi que les idolâtres et tous ceux qui sont mentionnés dans cette écriture. Dans Galates 5, 19 à 21, l'apôtre nous expose toute une liste de ces choses. Les écritures relatives doivent susciter une réponse personnelle dans chaque individu ou sinon ce n'est qu'un bref coup d'œil dans le miroir et tout demeure comme auparavant. C'est seulement lorsque nous prenons au sérieux les avertissements que nous comprenons ce qui est écrit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est important pour chacun de nous d'être trouvé dans la foi parfaite et dans l'obéissance dans notre marche sur le chemin resserré. La sournoiserie de l'ennemi se manifeste dans les croyants qui s'intéressent plus à ce que les autres ont fait, et qui, selon leur opinion, n'auraient pas dû arriver. Nous ferions mieux de nous examiner nous-mêmes, afin de trouver ce qui doit être corrigé dans notre propre vie pour que nous puissions rencontrer le Seigneur, et prendre à cœur cet avertissement. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Nous devons aussi prendre tout ce que le Seigneur a ordonné comme un commandement. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Une fois de plus, l'apôtre mit l'accent sur les choses fondamentales, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. Dans chaque âge tout au long de l'histoire, seuls ceux à qui une part dans l'élection de la grâce fut accordée. Romains 11, 5, écoutèrent ce que l'Esprit avait à dire aux Églises. Apocalypse chapitre 2 et 3, tandis que les autres furent endurcis. Romains 11, 7. Maintenant que nous sommes si proches du retour de l'époux, en allemand le fiancé, le futur marié, l'appel final à sortir et la préparation de l'Église épouse, en allemand l'assemblée fiancée, la congrégation nuptiale, sont en train d'avoir lieu. Dieu a tout fait. Il nous a envoyé le messager, nous a donné le message, et il nous conduit de clarté en clarté. Après que le christianisme déchu eût été décrit dans Apocalypse 17, comme Babylone la grande prostituée, l'appel retentit pour la dernière fois pour tous les vrais croyants dans Apocalypse 18, 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » C'est l'appel final que doivent suivre tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse, en allemand l'assemblée fiancée, la congrégation nuptiale. Avant le retour de l'époux, en allemand, le fiancé, le futur marié. L'appel à sortir et la séparation sont suivis de la pleine restauration. C'est de cette manière qu'à la fin, toutes choses reviennent à leur état original comme au commencement de l'Église du Nouveau Testament. Le retour de Christ et les différentes venues. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jean 14, 3. Frère Branham disait, il y a trois venues de Christ. Il vint une première fois pour acheter son épouse, en allemand sa fiancée. Il vient ensuite une seconde fois lors de l'enlèvement pour prendre son épouse, en allemand. Il vient une deuxième fois pour amener la fiancée rachetée, la future mariée rachetée, à la maison. Puis il revient une troisième fois après le repas des noces pour établir le millénium avec son épouse. En allemand, la troisième fois, il vient, après le repas des noces, avec l'épouse, sa femme mariée, pour l'établissement du règne de mille ans. La parole parlée est la semence originelle. Sa première venue est largement décrite dans les quatre évangiles, depuis la naissance de notre Seigneur et Sauveur jusqu'à son ascension au ciel. Selon Matthieu 25, notre Seigneur vient en tant qu'époux, en allemand en tant que fiancé, futur marié, pour prendre son épouse, en allemand sa fiancée, sa future mariée, dans la gloire. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Verset 10. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 39 à 58. Dans 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul a aussi mentionné le retour de Jésus-Christ et a décrit l'événement en détail, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Versets 13 à 18. L'apôtre Jean écrivit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » 1 Jean 3, 2. Chaque venue du Seigneur est une parousie, présence corporelle. Dans 2 Thessaloniciens 2, 1 et 2, l'apôtre Paul avertit les croyants en disant, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qui semblerait venir de nous. Notre sujet est le retour de notre bien-aimé Seigneur et l'avertissement direct qui nous est donné à tous sur sa seconde venue, car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair, celui-là est le séducteur et l'antichrist. 2 Jean 7. Juste après cette déclaration sévère nous lisons, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Verset 9. Le déni du retour corporel de notre Seigneur et Sauveur est la pire hérésie qui soit, et elle est placée au même niveau que l'antéchrist, c'est pour cela qu'immédiatement après, suit cet avertissement, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas, salut. Verset 10. Éprouvez les esprits, éprouvez les docteurs et leurs doctrines, en allemand, éprouvez les enseignants et leurs enseignements. Citation de frère Branham, maintenant nous nous attendons au retour du Seigneur dans notre génération. Le retour physique du Seigneur Jésus pour prendre un peuple physique, glorifié par son sang qui purifie. L'union invisible de l'épouse de Christ. En allemand, la fiancée de Christ, la future épouse de Christ. 25 novembre 1965. Celui qui nie le retour corporel de Jésus-Christ est possédé par un esprit antéchrist. Cela s'applique également à tous ceux qui spiritualisent la seconde venue et qui enseignent que le Seigneur est déjà revenu. Ils sont aveuglés par leur arrogance et se placent au-dessus de la parole de Dieu. Lors du retour de Jésus-Christ, tout se déroulera exactement tel que c'est écrit, à savoir, ce Jésus, qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Luc 24, 50 et 51, Acte 1, 11. Nous devons respecter cela. Car c'est ainsi dit le Seigneur dans sa parole. De la même manière, toutes les Écritures traitant des différentes venues qui ne sont pas en relation avec l'Église et l'enlèvement doivent être considérées dans leur juste contexte. Nous savons que le retour de notre Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement, aura lieu avant le commencement de la grande tribulation. Frère Branham l'a redit à maintes reprises. Paul a écrit aux croyants, quelle est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Retour? 1 Thessaloniciens 2, 19. Cependant, il y a d'autres venues du Seigneur qui ne concernent pas l'Église et qui sont mentionnées dans différents passages tels que dans Matthieu 25, à partir du verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Dans 2 Thessaloniciens 1, 7 et 8, nous lisons. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir. Nous trouvons d'autres exemples dans Apocalypse 16 versets 15 à 16, et Apocalypse 19 à partir du verset 11. Il est absolument impératif de se référer toujours à l'Ancien Testament afin de savoir précisément de quoi il s'agit et le contexte exact. Qu'en est-il de la venue de notre Seigneur telle que décrite dans Matthieu 24, 29 à 30? Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Cette écriture ne parle pas de la venue de l'époux, en allemand, la venue du fiancé, du futur marié, mais plutôt de la venue du Fils de l'homme, après la grande tribulation, lorsque le soleil se changera en ténèbres et que la lune ne donnera plus sa lumière. Cette venue aura lieu pendant le sixième sceau. Apocalypse 6 à partir du verset 12. Apocalypse 1, 7, relate également cette venue, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Zacharie 12, 9 à 10. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel 7, 13 et 14. Apocalypse 11 à partir du verset 15, donne encore plus de détails. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Dans ce contexte, nous lisons au sujet du septième ange qui sonne de la trompette et qui est également mentionné dans Apocalypse 10, 7. Le 17 mars 1963, Frère Branham avait dit au sujet de cette écriture dans sa prédication intitulée « La brèche, voyez je n'invente rien ». C'est ainsi dit le Seigneur. Je vous le lis de ce livre, la Bible. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le « ainsi dit le Seigneur » prononcé par Frère Branham ne doit pas et ne peut pas être touché. Dans le même paragraphe, il a donné cette clarification en relation avec le septième ange qui sonne de la trompette et la descente de l'ange de l'Alliance. Et lorsque les sceaux sont brisés et le mystère révélé, alors descend l'ange, le messager, Christ, posant ses pieds sur la terre et sur la mer, et ayant un arc-en-ciel au-dessus de la tête. Ainsi donc, rappelez-vous que ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Je vous prie de bien faire attention à ceci, cela n'arrive pas lors du retour de Christ, lorsque son épouse, en allemand sa fiancée, le rencontre dans les airs en tant qu'époux, en allemand en tant que le fiancé, le futur marié. Mais quand le Seigneur descend en tant qu'ange de l'Alliance, non pas le septième ange, du septième âge de l'Église, mais, ce, septième ange sur la terre, cela n'arrive pas au moment de l'ouverture des sceaux en 1963 mais plutôt après que les sceaux soient brisés. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, 1b. Les sept anges qui sonnent de la trompette sont introduits lors de l'ouverture du septième sceau. Dans sa prédication sur le septième sceau, Frère Branham n'a lu que le premier verset du chapitre 8 sur le silence d'une demi-heure dans le ciel. Mais directement après cela, Jean a vu ce qui est écrit à partir du verset 2, « Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. » Dans la Bible hébraïque, le mot « shofar » est utilisé, lequel est traduit dans notre Bible comme « trompette ». Le mot chauffard est aussi mentionné dans neuf autres endroits. Apocalypse 8, 6, 8, 8, 8, 10, 8, 12, 8, 13, 9, 1, 9, 13, 10, 7, 11, 15. Cela montre clairement que le contenu du septième sceau n'est pas en relation avec les sept anges des églises. Apocalypse chapitre 2 et 3, mais plutôt avec les sept anges qui sonnent de la trompette et qui se tiennent devant Dieu. Après que les quatre premiers anges des trompettes eurent sonné leur chauffard, il est écrit, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Apocalypse 8, 13. Au chapitre 9, le cinquième et le sixième ange sonnent de leur trompette et il ne manque plus que la voix du septième ange. Le septième ange, annoncé dans Apocalypse 10, 7, n'est évidemment pas le messager du septième âge de l'Église mais plutôt le septième ange qui sonne de la trompette. Le ainsi dit le Seigneur de frère Branham se réfère sans équivoque à la voix du septième ange qui sonne de la trompette, car en ce moment-là le mystère de Dieu sera accompli. Quand frère Branham se référait à Apocalypse 10, 7, en faisant la relation avec son ministère, il utilisait la forme, au pluriel, les mystères. C'est une distinction très importante parce que c'est par le dernier message à l'âge de la Odyssée, par son ministère, que tous les mystères devaient être révélés, de la Genèse au dernier chapitre de la Bible, et c'est effectivement ce qui a eu lieu. C'était la tâche du dernier messager, dans l'âge de la Odyssée, d'apporter le dernier message. Apocalypse 10, 7, parle du mystère de Dieu, au singulier, qui s'accomplira lorsque le septième ange sonnera de la trompette. Cela est décrit très clairement dans les Saintes Écritures. Christ est le mystère de Dieu révélé. 1 Timothée 3, 16, Colossiens 2, 2, 3, etc. Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le mystère de Dieu en Christ fut caché aux Juifs, mais quand leur temps arrivera, cela leur sera aussi révélé. À cet égard, la parole de Dieu est claire, et elle ne peut pas être mal comprise. L'erreur grave qui est commise vient du fait que les citations et les écritures, qui, en fait, parlent des différentes venues, ne sont appliquées qu'en rapport au retour de Christ, à savoir sa seconde venue. Il est important de discerner clairement les écritures et de les placer chacune correctement dans leur ordre divin. Le temps arrive où chacun devra donner raison à Dieu et à sa parole. Heureux celui qui peut le faire dès maintenant. Dans le Nouveau Testament, c'est seulement la première partie de Malachie 3, 1, se rapportant à Jean-Baptiste, qui est mentionnée, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Matthieu 11, 10. La deuxième partie, au sujet de l'ange de l'Alliance qui viendra dans son saint temple, ne fut pas mentionnée parce qu'elle n'a pas été accomplie en ce temps-là. La promesse de l'ange de l'Alliance était déjà là, mais sa réalisation est réservée pour le futur. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Malachie 3, 1b et 2. Dans Apocalypse 11, 1, le temple rebâti est mesuré. Selon 2 Thessaloniciens 2, 4 à 8, l'Antéchrist s'assiera dans le temple de Dieu, mais lors de cette venue vers les Juifs, le Seigneur le fera mourir du souffle de ses lèvres. Ésaïe 11, 4. Dans Apocalypse 10, nous voyons l'ange de l'Alliance enveloppé d'une nuée descendant du ciel avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Verset 1. Comme cet événement se déroule après l'ouverture des sceaux, nous voyons dans sa main un livre ouvert. Alors, en tant que propriétaire légitime, il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Verset 2. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion, c'est à ce moment-là que les sept tonnerres feront entendre leur voix. Verset 3. Ce qu'ils ont dit ne nous concerne pas car cela n'a aucune relation avec l'Église et il fut interdit de l'écrire, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Verset 4. Nous respectons la décision divine et nous laissons à Dieu les choses qu'il va faire lui-même. C'est seulement à ce moment-là que l'ange de l'Alliance, qui se tiendra sur la terre et sur la mer, lèvera sa main droite vers le ciel et jurera. Par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. En ce moment-là il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus de délai mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, chauffard. Le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Au chapitre 11, après que le ministère des deux prophètes est achevé et qu'ils sont enlevés dans une nuée. Verset 12, le septième ange sonne alors sa trompette comme cela avait été annoncé dans Apocalypse 10, 7. Et le royaume de Dieu est proclamé. Tout est absolument dans un ordre parfait. Le prophète Daniel avait vu à l'avance comment l'ange allait lever ses mains et jurer. Il écrivit que dès ce moment-là jusqu'au commencement du règne divin, il n'y aurait plus que 3 ans et demi. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Daniel 12, 6 et 7. Dieu ne pouvait pas l'exprimer plus clairement. En relation avec ce sujet particulièrement, nous pouvons citer un certain nombre d'écritures qui démontrent quand, et dans quel contexte, le lion de la tribu de Juda rugira. L'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte il fera retentir sa voix. Jérémie 25, 30 et 31. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion. Osée 11, 10. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Joël 3, 15 à 17. Dans Apocalypse 10, 7, nous voyons l'annonce de ce qui s'accomplit au chapitre 11, 15. Celui qui lit attentivement reconnaîtra qu'au moment où le septième ange de trompette sonne son chauffard, et proclame le royaume de Dieu sur la terre, le mystère de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur est alors accompli. Et le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix, disant, « Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui sont assis devant Dieu sur leur trône, tombèrent sur leur face et rendirent hommage à Dieu, disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est, et qui était, de ce que tu as pris ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. » Apocalypse 11, 15 à 17. Cela fut une grave erreur d'interpréter la voix du septième ange dans Apocalypse 17, comme étant la voix de Dieu, malgré le fait qu'il n'y a aucune mention dans ce verset de la voix de Dieu, ni de la voix du messager du septième ange de l'Église. Incontestablement, il s'agit de la voix du septième ange qui sonne de la trompette. Frère Branham avait le droit d'utiliser cette écriture prophétique en relation avec son ministère. Comme nous l'avons vu à maintes reprises, les écritures prophétiques peuvent avoir une double application. Veuillez comparer la suivante. Israël est mon fils, mon premier-né. Exode 4, 22. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Osée 11, 1. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Matthieu 2, 15. Ici, le mot-clé est « fils ». Les événements décrits ci-dessus sont totalement différents. Mais la même parole dans Osée 11, 1, s'applique aux deux. Un frère, qui n'avait que 10 ans au moment où frère Branham fut repris dans la gloire en 1965, 20 ans plus tard, avec l'idée que la voix de frère Branham est la voix de Dieu, que tous doivent écouter. Par conséquent, tous ceux qui croient cela affirment qu'il ne faut écouter que frère Branham et que personne d'autre n'a le droit de prêcher. Parce qu'il ne cite que ses déclarations sans les ramener dans les Écritures en les plaçant correctement à l'endroit juste, il s'enfonce toujours plus profondément dans les sables mouvants des nombreuses interprétations non scripturaires qu'ils ont même placées au-dessus de la parole de Dieu. Nous respectons le ministère unique et infaillible que Dieu avait donné à frère Branham, ministère qui fut en relation directe avec son plan du salut. Tous ceux qui sont nés de Dieu écouteront et croiront la parole promise pour notre temps. Cependant, nous rejetons catégoriquement toute interprétation de la parole ainsi que toute forme de glorification d'un homme, ce n'est rien d'autre que de l'idolâtrie. La voix de Dieu dans la parole de Dieu demeure éternellement. L'honneur et la gloire reviennent à Dieu seul par Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant que le retour de Christ est imminent, ces thèmes doivent être clarifiés et placés correctement, de manière scripturaire, dans leur ordre divin. Toutes les fausses doctrines qu'on trouve dans les nombreuses dénominations proviennent des Écritures qui ont été mal comprises et mal interprétées. De la même manière, chaque enseignement erroné que l'on trouve dans le milieu du message est apparu suite à l'application incorrecte des déclarations de frère Branham. Ce n'est ni la parole de Dieu, ni le message que le prophète a apporté qui sont mis en cause. Mais Satan, le séducteur, qui a depuis le commencement tordu la parole de Dieu. Urim et Thummim, lumière et justice. Il avait été ordonné à Aaron, tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Exode 28, 15 et 30, Lévitique 8, 8. Au temps de Moïse, Aaron fut le premier souverain sacrificateur qui avait la responsabilité du service dans le sanctuaire ensemble avec les sacrificateurs de la tribu de Lévi. La robe, l'éphod et le pectoral faisaient partie du service. Le pectoral était garni de 12 pierres précieuses correspondant aux 12 tribus d'Israël. Lorsqu'on lit toutes les écritures qui sont en relation avec cela dans l'Ancien Testament, il devient clair que Dieu s'était réservé le droit d'administrer la justice dans son sanctuaire. Nombre 27, 21, 1 Samuel 28, 6. Par la lumière qui rayonnait des 12 pierres, Dieu lui-même confirmait de manière surnaturelle la validité de ce qui avait été dit. C'est ainsi que cela fut appelé, en langue hébraïque, lumière et justice. Deutéronome 33, 8. À l'époque d'Esdras et de Néhémie, lorsque le peuple d'Israël retourna à Jérusalem pour rebâtir la maison de Dieu, la proclamation suivante fut faite, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Ourim et le Thummim. Néhémie 7, 65. Frère Branham a dit à maintes reprises, aujourd'hui notre Ourim et Thummim est la parole de Dieu. Et par cela il se référait directement à la doctrine des 12 apôtres. Il a mentionné 138 fois le pectoral du temps de Moïse et Aaron en faisant le rapport avec la doctrine inchangeable des apôtres. Le 6 avril 1956, dans sa prédication La parole infaillible de Dieu, il dit « Et si quelqu'un raconte son songe ou un prophète prophétise et que cela ne fait pas resplendir l'Ourim et Thummim, alors ce prophète était faux. » Jésus-Christ est le fidèle souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dieu a placé les différents ministères dans son Église. 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, etc. Et il a désigné la doctrine des 12 apôtres comme étant le principe de conduite valable pour toujours. L'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Acte 2, 42, Éphésiens 2, 20. Frère Branham rendit valide pour nous l'écriture d'Apocalypse 12. En confirmant que la femme couronnée des 12 étoiles représente effectivement l'Église du Nouveau Testament qui est couronnée de la doctrine des 12 apôtres. Elle a reçu la semence divine de la parole et dans son achèvement, elle enfantera le fils mâle, en allemand, fils viril, qui sera d'abord enlevé dans la gloire et qui est destiné à régner sur toutes les nations. Tout ce qui est en accord avec l'enseignement des 12 apôtres est confirmé par la lumière surnaturelle. Lorsque les choses qui sont enseignées, prophétiser ou pratiquer ne sont pas en harmonie avec la parole, le pectoral ne rayonne pas. Les 12 pierres précieuses du pectoral sont les mêmes que celles que l'on trouve dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, 15 à 20, qui descendra du ciel comme une épouse qui s'est parée. En allemand, comme une fiancée, une future mariée qui s'est ornée ou parée. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole. En disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. En allemand, je te montrerai la jeune fiancée, future mariée, nymphen, en grec. La femme de l'agneau. En allemand, vaib, la femme, être de sexe féminin, femelle, gynaïka dans le grec original. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Apocalypse 21, 9 à 27. La description de la Nouvelle Jérusalem est impressionnante et d'une grande importance. La ville a 12 fondements, qui sont ornés de 12 pierres, et sur ces fondements sont inscrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. Les pierres des fondements sont 12 pierres précieuses qui sont mentionnées une à une. Versets 15 à 20. Il nous est aussi dit que la ville a 12 portes sur lesquelles sont écrits les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé pourront entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Ici, il est question de l'épouse de l'agneau, en allemand, la fiancée de l'agneau, la future mariée ou future épouse de l'agneau. De tous ceux qui ont été élus avant la fondation du monde parmi le peuple d'Israël et de toutes les nations de l'Ancien et du Nouveau Testament, ceux qui, par la foi parfaite et dans l'obéissance, ont marché en pleine harmonie avec Dieu et sa parole. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, 27. Frère Branham avait aussi traité de la chute de Lucifer, et lu Ésaïe 14, 12, Luc 10, 18, Ézéchiel 28, 11. En tant qu'ange de lumière et chérubin oint, il était couvert de 9 pierres précieuses. Ézéchiel 28, 13. Il était très proche de Dieu, sans faute depuis le jour où il fut créé et il était dans le jardin d'Éden. Cependant, il arriva le temps où il commença à dire, « Je veux, je veux. » Alors vint l'arrogance qui le conduisit à vouloir être égal à Dieu, ce qui provoqua sa chute. Les faux oints du temps de la fin, qui sont supposés voir des visions, proclament leur révélation. Les faux Christs de Matthieu 24 se présentent même avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Ils se décorent des 9 dons de l'Esprit, leur doctrine et pratique cependant, sont en accord avec celle de l'Antéchrist, et non avec les enseignements de Christ et des 12 apôtres. À cause de leur propre volonté, ils se sont abandonnés à l'arrogance spirituelle. Et ils égarent ainsi beaucoup d'âmes précieuses. Il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci dans lequel la séduction est décorée avec tant d'écritures. Tous mentionnent les écritures, et se justifient eux-mêmes sans pour autant prendre la peine de comparer leurs enseignements et pratiques à ceux des apôtres. Dans 2 Timothée 4, nous lisons le passage concernant la commission donnée à un véritable serviteur de Dieu. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Puisse Dieu accorder cela. Amen. Égarement à tous les niveaux. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Matthieu 24, 4. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Verset 24. Dans les siècles passés, l'imminent retour de Christ n'était pas le sujet principal dans les églises. Mais, récemment, toutes, du Vatican à la toute dernière dénomination, parlent de cela en utilisant même le mot parousie. Lors de son audience générale du 12 novembre 2008, le pape Benoît XVI avait choisi comme thème « Maranatha », qui signifie « Viens, Seigneur Jésus ». Et à maintes reprises, il s'est référé à ce que Paul écrivit dans 1 Corinthiens 16, 22, en disant « Maranatha ». De nos jours, des terminologies bibliques telles que le corps de Christ, l'épouse de l'agneau, en allemand, la fiancée de l'agneau, et l'église de Jésus-Christ, font partie du vocabulaire commun de l'église de Rome et des autres églises. Benoît XVI a même mentionné ce que l'apôtre Paul écrivit dans 2 Thessaloniciens 2, qu'avant le retour de Christ, il y aura une apostasie, ce qui veut dire l'abandon de la foi. L'église de Rome ainsi que toutes les autres églises sont tombées inconsciemment et depuis longtemps dans cette apostasie. L'Église romaine n'existe que depuis le temps de Constantin. Elle n'a rien en commun avec l'Église de Jésus-Christ et ne correspond en rien avec ce qui se trouve dans la Bible, que ce soit dans la doctrine ou dans la pratique. Pareillement, aucune des autres Églises ne peut réussir le test de la parole. Quelle est l'utilité de parler de l'apostasie aussi longtemps que l'on ne la reconnaît pas dans sa propre vie? Ce qui est très révélateur, c'est la déclaration suivante du pape actuel lorsqu'il dit que Paul n'avait pas suffisamment expliqué la personne dont la tradition chrétienne a appelé plus tard l'Antéchrist. En fait, la description est assez claire pour celui qui peut la voir. La déclaration principale dans 2 Thessaloniciens 2, sur l'Antéchrist, est qu'il paraîtra en relation avec l'apostasie comme étant l'homme du péché. En allemand, littéralement l'homme de l'anarchie, l'homme sans loi, illégal. Le fils de la perdition, l'adversaire direct de Christ, celui qui s'exalte au-dessus de tout ce qui est de Dieu ou de ce qu'on adore. Il se nomme lui-même le représentant de Christ. Voici ce qui est la marque distinctive, l'Antéchrist est sans loi. Cela veut dire qu'il est un homme venant des nations, non pas un juif, car les juifs sont le peuple de la loi, la Torah. Dans Actes 2, 23, l'apôtre Pierre s'adressant aux juifs responsables de la crucifixion du Messie, dit, « Cet homme, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies, en allemand, par la main des hors-la-loi, des anarchiques, sans loi. Il faisait allusion aux Romains, à Pilate qui prononça le verdict, ainsi qu'aux soldats romains qui exécutèrent la crucifixion et qui après se partagèrent ses vêtements entre eux. Jean 19, 23. Le peuple d'Israël est le peuple de la loi. Le Seigneur Dieu lui-même descendit sur la montagne de Sinaï. Il donna premièrement les 10 commandements à Moïse, et ensuite toute la loi. Plusieurs références bibliques peuvent être considérées sur ce sujet. Mais en aucun cas l'Antéchrist peut être un juif. Il est un homme venant des nations, il est sans loi. Il ira si loin qu'il s'assiera même dans le temple de Dieu et se fera passer pour son représentant. 2 Thessaloniciens 2, 4. Le nom de Yahvé. Le 19 novembre 2008, le Vatican publia un décret selon lequel le nom de Dieu, Yahvé, ne peut plus être utilisé dans la liturgie catholique. Par cela, la curie répondit favorablement à une requête des rabbins juifs, car selon leur argument, le saint nom de Dieu ne pourra être proclamé de nouveau que par le souverain sacrificateur dans le temple qui doit être rebâti à Jérusalem. Dans la Bible hébraïque, ce nom est représenté seulement par 4 consonnes, Y, H, W, H, Yod, E, Vav, E. Il fut prononcé par Dieu lui-même, et Dieu parla à Moïse, et lui dit, « Je suis l'Éternel, Jéhovah, en allemand, Ich bin der Herr, je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom Jéhovah, Elohim Yahvé, en allemand, mais je ne me suis pas révélé à eux avec mon nom, Gott der Herr, Elohim Yahweh, Dieu le Seigneur, Elohim Yahvé. » Exode 6, 2 et 3. En introduisant les 10 commandements, le Tout-Puissant dit, « Je suis l'Éternel, Yahweh, ton Dieu, Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Ensuite, il ordonna, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » Le nom de l'Alliance du Seigneur Dieu est si saint qu'il ne pouvait être prononcé qu'avec révérence, pendant le service d'adoration. Dieu lui-même l'a ordonné ainsi et il a dit, « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi, et je te bénirai. » Exode 20, 24. Il n'était pas permis de prononcer ce saint nom lorsqu'on faisait sortir un mort d'une maison, car Dieu n'est pas le Dieu des morts mais celui des vivants. Silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel Yahvé. En allemand, « Der Name Gottes des Herrn », car le nom du Seigneur Dieu ne doit pas être prononcé. Amos 6, 10. Cette écriture fut mal comprise par les scribes juifs qui interdirent complètement de prononcer le nom de Yahvé. Aux environs de 270 avant Jésus-Christ, lorsque la Bible hébraïque fut traduite en grec, respectivement par 70 ou 72 scribes juifs d'Alexandrie en Égypte, ils commirent une grande erreur. Dans la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, ils traduisirent Yahvé en Kyrios. Les scribes juifs de Tibériade n'étaient pas du tout d'accord avec la traduction dite de la Septante ainsi que du terme Kyrios au lieu de Yahvé. Cependant, les juifs eux-mêmes plus tard substituèrent « YHWH » en Adonai, en lisant la Torah. Jusqu'à ce jour, les juifs prient « Elohim Adonai » au lieu de « Elohim Yahvé ». Toutes les 3 désignations du mot « Seigneur » Adonai, Kyrios, et Dominus, n'ont aucune relation directe avec Dieu. Adonai pourrait être un homme exerçant une autorité, Kyrios pourrait être un dirigeant, et Dominus un commandant, mais aucune de ces 3 désignations n'est en relation directe avec le seul vrai Dieu qui s'est révélé lui-même dans son nom de l'Alliance qui est Elohim Yahvé. De même la désignation de Jéhovah vient d'une mauvaise interprétation et n'est utilisée que depuis l'an 1518. Avons-nous tous le même Dieu? Récemment, on a tous entendu la déclaration suivante, « Nous avons tous le même Dieu. Cela ne peut pas être possible. Bien entendu, il n'y a qu'un seul Dieu, qui s'est révélé lui-même dès le commencement du temps, en tant qu'Elohim Yahvé. Il est le seul éternel, le créateur des cieux et de la terre. Il est roi, sauveur, juge, et il est tout en tous. Il a dit lui-même, « Hors moi il n'y a point de Dieu. » Ésaïe 44, 6, etc. C'est lui le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël. Ici sur la terre, il a donné lui-même à son peuple la seule confession de foi valable qu'ils doivent observer, écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Deutéronome 6, 4 à 9. Le Dieu trinitaire, en qui le christianisme croit, fut inventé par les premiers pères de l'Église catholique au IIIe siècle. Dans la Bible, on ne trouve aucune mention des mots tels que Trinité, Dieu en trois personnes, Fils éternel, ou Dieu le Fils. On ne trouve aucune écriture qui relate que Dieu aurait ordonné le Saint-Esprit comme la troisième personne de la divinité. Cela fut institué par les pères de l'Église en l'an 386 après Jésus-Christ. Il n'y a pas non plus un seul passage dans les saintes écritures qui atteste que Dieu aurait engendré et fait naître un fils dans le ciel, ou un récit d'une conversation entre le Père et le Fils dans le ciel. Toutes ces choses ne sont rien d'autre que des incompréhensions sur Dieu qui furent introduites par les soi-disant pères du christianisme. Et par la suite, elles furent érigées en tant que dogmes et enseignements. Le sujet sur la divinité est la manifestation personnelle de Dieu en tant que Père dans son seul Fils engendré. En allemand, la révélation personnelle de Dieu en tant que Père dans le Fils. Et le plus vital dans la prédication de la Bible, puisque cela a eu lieu pour notre salut. Ce sujet a été largement couvert dans un grand nombre de mes publications et sur base d'écritures adéquates, afin que celui ou celle qui est disposé à sonder les écritures, honnêtement et sans a priori, puisse obtenir la clarté nécessaire. Allah est le Dieu de Mahomet et de l'Islam. Comme il est relaté avec pertinence dans les récits historiques, il fut l'ancien dieu babylonien de la lune, qui prétendument accordait la fertilité à toute la végétation de la terre. Après que Mahomet eut conquis toutes les autres tribus et leurs dieux, il proclama qu'Allah, le dieu de sa tribu, était le seul vrai dieu et il se déclara lui-même son prophète. À la Kaaba, la Mecque, la vénération de la pierre noire continue comme autrefois et jusqu'à ce jour, le Ramadan, le mois de jeûne pour les musulmans, débute à la nouvelle lune. L'objectif final de leur religion demeure le même comme depuis le début, c'est-à-dire que la demi-lune de l'islam devienne la pleine lune sur la terre par la conversion de tous les non-musulmans. Tout au long de ces années, j'ai visité 12 pays islamiques. J'avais toujours été très affligé de ce que lorsque je prêchais et que je disais Dieu, le traducteur substituait ce mot par Allah. En Indonésie, qui est le plus grand pays islamique du monde avec 227 millions d'habitants, le mot Allah est écrit dans leur Bible du premier verset de Genèse 1 jusqu'au dernier dans le prophète Malachi. Cela était vraiment incompréhensible pour moi. Finalement, notre cher Seigneur a vu ma douleur et a permis que je puisse rencontrer un professeur qui travaille pour la société biblique à Jakarta. Dieu ouvrit sa compréhension pendant une de mes prédications et suite à son influence, la Bible fut réimprimée. Il m'envoya immédiatement une copie afin que je puisse voir moi-même que le nom Allah n'y est plus mentionné et qu'il avait été remplacé par Elohim Yahvé. Nous remercions le Seigneur Dieu pour cela. Ce sujet avait même attiré l'attention des gouvernements d'Indonésie et de la Malaisie. Par conséquent, en février 2009, le gouvernement islamique de Malaisie interdit tout usage du nom Allah par les églises chrétiennes. Selon ce qui m'a été dit lors de mon dernier voyage en Indonésie au mois de mars 2009, le gouvernement de Jakarta pourrait bientôt faire de même. Le baptême. Récemment, le Conseil mondial des églises a enjoint la dénomination baptiste d'accepter le baptême des enfants, tel qu'il est pratiqué par les églises, comme le seul baptême valable, et de renoncer à faire rebaptiser les gens. Leur président resta ferme sur ce point et déclara, « Pour nous, il n'est pas question de baptiser de nouveau les gens, mais il s'agit du baptême des croyants qui ont pris leur décision pour Christ. » Pendant le temps de la Réformation, ceux qui étaient appelés anabaptistes furent persécutés, maudits et massacrés. L'Église de Rome et plus tard les églises d'État protestants qui émergèrent de la Réformation se référèrent à Éphésiens 4, 5, et déclarèrent qu'il ne peut y avoir un deuxième baptême car il est écrit, « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Cependant, les anabaptistes avaient réalisé que l'enseignement sur le sacrement du baptême, à savoir que l'enfant naît de nouveau par le rituel d'aspersion d'eau, était complètement étranger à la Bible. Cela n'est qu'une tradition de l'Église de laquelle nul ne peut recevoir le salut éternel qui vient de Dieu. Par conséquent, ils rejetèrent le baptême des enfants et administrèrent le baptême selon la parole de Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». La Bible fut alors mise à la disposition de tous. Chacun pouvait la lire et décider par lui-même s'il voulait accepter le seul baptême biblique ou demeurer dans la tradition de l'Église du baptême des enfants, qui remonte au temps où les gens étaient forcés d'accepter la religion chrétienne. Aux yeux de Dieu, ce dernier baptême n'est absolument pas valable, Pendant ce réveil, ils commencèrent à baptiser par une seule immersion. La personne qui baptisait et celle qui devait se faire baptiser allaient toutes deux dans l'eau comme cela était pratiqué au commencement du christianisme. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Acte 8, 38. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 16 et 17. Maintenant, ceux qui baptisent de nouveau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tel que cela fut pratiqué dans l'Église au commencement, sont une fois encore rejetés et persécutés. Pour en juger soi-même, chacun peut lire pour voir comment le baptême fut administré à Jérusalem acte 2, en Samarie acte 8, à Césarée acte 10, à Éphèse acte 19, et à Rome, Romains 6. Sans aucune exception, tous les apôtres et tous les évangélistes avaient correctement compris l'ordre de mission et ils baptisèrent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est révélé lui-même en tant que Père au ciel, dans son Fils sur la terre et dans son Église par le Saint-Esprit. Toutefois, selon les paroles de notre Seigneur dans Matthieu 28, 19 au sujet du baptême, celui-ci devait être exécuté, dans le nom, et non dans les titres. Il s'agit du nom de l'Alliance Yahshua, Jésus, qui signifie, Yahvé, Sauveur, du Nouveau Testament. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Jean 17, 11b. Les saintes Écritures ne font pas mention d'un sacrement de baptême ou d'un enseignement selon lequel on naîtrait de nouveau après avoir été baptisé. Même si toutes les églises et dénominations n'acceptent pas chaque doctrine catholique, elles demeurent néanmoins dans leur tradition quant au baptême trinitaire. Maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, chaque enseignement et chaque pratique dans son Église doivent être ramenés en plein accord avec Dieu et sa parole afin qu'elle puisse être rétablie dans son état originel. Le monde en crise. Nous nous attendions à ce que beaucoup de grandes choses arrivent, mais nous n'étions pas préparés aux multiples crises qui secouent actuellement le monde entier. Ce qui avait commencé avec les banques a continué et atteint toute l'économie, entraînant le monde entier dans différentes crises d'une ampleur encore jamais atteinte. Chaque jour, nous entendons des nouvelles décourageantes. Et il semblerait que nous n'avons pas encore atteint le fond. La situation me rappelle la déclaration de l'archevêque cardinal allemand Faulhaber, de Munich-Freising, 1869-1952. Quand le monde saigne, de mille plaies, et que les langages des peuples sont confus comme ils le furent à Babylone, alors le temps de l'Église catholique est arrivé. K.H. Deschner, Kriminalgeschichte des Christentums, l'histoire criminelle de la chrétienté. Aux États-Unis. Tous les espoirs sont placés sur le nouveau président Barack Hussein Obama, qui a hérité du fardeau supplémentaire de la guerre d'Irak. Toutes les guerres ont des conséquences qu'on ne peut plus réparer. Lors d'une interview de la chaîne CNN, la question suivante fut posée, « Quelle fut la plus grosse erreur d'un gouvernement du monde au XXe siècle ?» La réponse fut, « L'invasion des troupes allemandes dans l'Union soviétique en juin 1941. » La seconde question fut, « Quelle a été la plus grosse erreur d'un gouvernement dans ce siècle ?» La réponse, l'invasion des troupes américaines et britanniques en Irak en mars 2003. Plus de 4000 soldats sont déjà retournés aux États-Unis dans des cercueils. Des milliers ont été blessés et sont retournés au pays estropiés et traumatisés. Plus de 3,5 millions d'Irakiens sont sans abri, nous ne saurons jamais le nombre de ceux qui ont été tués. Et le pays est en ruine. Comme c'est souvent le cas dans toutes les guerres, celle de l'Irak est aussi un crime contre l'humanité. Il semblait au début que Saddam Hussein devait être renversé afin de sauver le monde d'une guerre nucléaire. Cependant, lorsque M. Hans Blix et M. El Baradei ne trouvèrent aucune évidence de nucléaire ou de l'existence d'armes de destruction massive en Irak, il devint manifeste que le vrai motif était le pétrole. Si l'ex-président des États-Unis, George W. Bush, ne se convertit pas au catholicisme comme le fit Tony Blair, il doit être conscient qu'il risque d'être poursuivi par la Cour internationale de justice, à La Haye, à cause de la guerre en Irak. Le nouveau président Barack Obama ne peut que faire mieux car il n'est pas possible de faire pire. Dénégation de l'Holocauste. Ce sujet ne peut pas se régler en réfutant les déclarations du Vatican ou des déclarations de la partie adverse. Celui qui veut comprendre l'arrière-plan de tout ce qui arriva aux Juifs pendant le Troisième Reich doit retourner dans l'histoire, encore plus loin que l'Inquisition espagnole, durant laquelle des milliers de Juifs furent condamnés au bûcher, et leur Torah et Talmud brûlés avec eux. Le reste des Juifs furent bannis du Portugal et de l'Espagne jusqu'à ce que ces deux pays soient déclarés, en 1492, débarrassés de toute présence juive. Nous devons retourner encore plus loin que les sept croisades, de 1096 à 1292 après Jésus-Christ, qui ont coûté la vie à 22 millions de païens, musulmans et juifs. En fait, nous devons retourner aux proclamations des premiers pères de l'Église catholique à la fin du IIe siècle et pendant le IIIe siècle. Leurs campagnes calomnieuses contre les Juifs devinrent la base d'une haine permanente des Juifs et de leur persécution jusqu'à notre temps. Dans ce contexte, les noms suivants devraient être mentionnés: Justin, Irénée, Cyprien, Athanase, Eusebius, Ephrem, Chrysostome, Hieronymus, Hilaire, Ambroise et Augustin. L'Église d'État, qui prit naissance en ce temps-là dans l'Empire romain, n'est en rien identique à l'Église de Jésus-Christ, comme il est communément cru. Jusqu'à la persécution finale des chrétiens qui dura jusqu'à 312 sous Dioclétien, il n'y avait aucune église uniforme, seulement des différentes fractions de plusieurs croyances. En l'an 313, Constantin proclama la reconnaissance de la religion chrétienne. Et peu de temps après, en l'an 321, il interdit aux Juifs d'observer le sabbat en les obligeant d'accepter le dimanche, et on transforma leur synagogue en étable pour bestiaux. Les pères aveuglés de l'Église, qui n'avaient jamais expérimenté une conversion à Christ mais seulement embrassé le christianisme comme religion, furent responsables de cette attitude anti-juive depuis le début. Ils rejetèrent les Juifs ainsi que l'Ancien Testament, et avec moquerie, ils remplacèrent le seul vrai Dieu d'Israël par le Dieu trinitaire. Chaque acte criminel était béni par la nouvelle formule trinitaire qu'ils avaient inventée, en l'occurrence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Depuis lors, l'Église utilise cette formule entièrement non scripturaire, laquelle n'est jamais sortie des lèvres des apôtres. La semence semée par ces premiers pères de l'Église s'est manifestée de plus en plus dans l'Église de Rome tout au long des siècles. Le magazine allemand Der Spiegel expose de manière éloquente dans sa publication de février 2009, comme un fil rouge, l'antisémitisme à sa trace au travers de l'histoire de l'Église, souvent comme une trace de sang. Après la première croisade, en 1096, des pogroms commencèrent contre la population juive dans les villes d'Allemagne telles que Trèves, Speyer, Worms et Cologne. Cela entraîna la mort de milliers de Juifs. Pendant le Concile de Latran, il fut décrété que les Juifs devaient porter une marque. Tout au long des siècles, il y eut régulièrement des pogroms en Europe à prédominance catholique. Nous lisons des récits sur des ghettos, le marquage, l'exclusion et la discrimination des Juifs. Même la liturgie du Vendredi Saint inclut des passages contre les Juifs. Tout bon catholique doit considérer les Juifs comme des parias, des meurtriers du Christ, et de Dieu, tels qu'ils furent nommés par les pères de l'Église. Cette semence se manifesta aussi dans la dernière partie de la vie de Martin Luther qui, en l'an 1543, écrivit une brochure intitulée « À propos des Juifs et de leurs mensonges ». Même les églises orthodoxes ne firent pas exception à cela. Vers la fin du XIXe siècle, il y eut une vague de pogroms contre les Juifs en Russie. Sans même avoir besoin de l'exposer, on peut dire que pendant tout le laps de temps où il y a eu des gouvernements protestants en Allemagne, il n'y avait jamais eu une seule persécution contre les Juifs. Au contraire, les Juifs étaient considérés comme des citoyens avec des droits égaux et avaient accès à tous les métiers. Comme n'importe quel Allemand, ils pouvaient être juges, avocats, médecins, commerçants, etc. L'année 1929 apporta un nouveau tournant dans l'histoire récente, lorsque M. Benito Mussolini, suite au traité de Latran du 11 février, aida l'Église à gagner plus de pouvoir en payant ses dettes évaluées à 1,750 milliards de lire, et accorda au Vatican 44 hectares de terre, comme territoire souverain. Ensuite vint le concordat, entre le Royaume d'Italie et le pape Pie XI, comme représentant de l'Église catholique romaine. Cette année 2009, le Vatican peut célébrer sa 80e année d'existence dans sa forme actuelle. En juillet 1933, le concordat fut signé entre le Vatican et l'Allemagne d'Hitler. De cette manière, L'Église de Rome s'assura toutes les positions clés du pouvoir pour ses représentants. Avec le règne de dominance catholique, apparut une nouvelle ère dans le Troisième Reich sous Hitler, qui se vantait d'avoir beaucoup appris des jésuites. L'antisémitisme devint acceptable au sein de la société. Chacun peut s'informer sur les campagnes calomnieuses contre les juifs du docteur Karl Luger qui fut maire de Vienne de 1897 à 1920. C'est de lui qu'Hitler tira la première propagande de persécution contre les juifs. Il y a aussi des récits sur les choses terribles dites publiquement à ce sujet par Heinrich Himmler de la Bavière, Julius Streicher, von Papen, Dr Joseph Goebbels, et tant d'autres. Selon leur point de vue, les juifs devaient être persécutés, bannis, ou tués, car ils étaient prétendument rejetés par Dieu. Il n'est donc pas étonnant que les six camps d'extermination les plus terribles, y compris Auschwitz, Auschwitz-Chim, furent construits dans le pays archi-catholique qu'est la Pologne. Les premières convictions des pères de l'Église, qui furent déclarés saints, devinrent le point de vue dominant dans l'Église catholique romaine. N'importe qui peut rechercher dans la littérature respective pour se rendre compte de ce qui fut proclamé alors, des choses telles que « celui qui tue un juif, réconcilie la mort de Christ ». C'est ainsi que des millions de juifs furent mis à mort en toute bonne conscience. Celui qui veut se donner la peine de lire quelques-unes des 40 000 publications qui traitent de la Deuxième Guerre mondiale, sur l'Holocauste, la Shoah, comprendra d'où vient la haine contre les juifs, ses vraies racines, et pourquoi la persécution et le massacre de masse furent rendus possibles. Bien entendu, l'Église doit officiellement contredire M. Hochschild, qui, en 1963, publia la pièce de théâtre Le Vicaire, dans laquelle il exposa le rôle que joua le pape Pie XII pendant la guerre. La question qu'on devrait poser est celle-ci, pourquoi est-ce que le Vatican refuse avec véhémence d'ouvrir les archives secrètes de 1939 à 1945? On a attribué au pape Pie XII sa juste place dans la galerie de la honte du mémorial de l'Holocauste de Yad Vashem, à Jérusalem. La déclaration selon laquelle il voulut empêcher par son silence que des pires choses n'arrivent résonne comme de la pure moquerie eu égard aux événements qui ont transparu. Le pape Benoît XVI insiste pour que ce portrait soit enlevé de cet endroit avant sa visite à Jérusalem en mai 2009. Nous devons laisser au jugement du trône blanc cette partie la plus tragique de l'histoire de l'humanité. Rome, la capitale mondiale, est clairement décrite dans Apocalypse 17 et 18. Au dernier verset, nous lisons, « Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » En ce qui concerne Israël et Jérusalem, toutes les promesses que Dieu leur a données sont maintenant en train de s'accomplir. C'est pourquoi tu diras, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. » Ézéchiel 11, 17, Luc 21, 24. « Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. » Amos 9, 9 à 15. Que Dieu bénisse Israël, son peuple de l'Alliance. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3. La vérité avance et la vérité sera victorieuse. Soyez consolés, le Seigneur fera toutes choses à merveille avec les siens. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck. Photo. Frère Franck est très reconnaissant de ses 50 années d'œuvre missionnaire dans le monde entier, notamment au Brésil lorsqu'il tint en octobre 1971, à São Paulo, la première réunion avec un petit groupe de croyants dans une maison. Maintenant, dans les plus grandes villes de ce pays, des milliers de gens se rassemblent pour entendre le message du temps de la fin. En décembre 2008, 320 prédicateurs et évangélistes venant de tout le pays se sont rassemblés dans la ville de Goiânia, dans l'assemblée du frère Joaquim da Silva, que Dieu a utilisé et béni d'une manière extraordinaire. Les frères sont venus afin de recevoir des réponses à leurs questions bibliques, et de trouver l'orientation spirituelle dans la parole de Dieu. La photo ci-dessus fut prise lors de la dernière réunion le 19 décembre 2008. Lorsqu'il demanda, « Croyez-vous que le retour de Jésus-Christ est proche ?» Un puissant oui se fit entendre de plus de 3 000 personnes. À la question, « Êtes-vous tous baptisés bibliquement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ? » La réponse une fois encore fut un Amen venant de toute la multitude, suivi d'un Alléluia. Gloria Deus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.